La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, cet appel sur l'actualité. Chaque jour, l'antenne de RFI vous est ouverte, on prend vos questions sur l'actualité, on tâche d'y répondre parce que savoir c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Nous parlerons ainsi des accusations ce matin visant Denis Christelle Sassou Nguesso, de la flambée du paludisme au Burundi ou encore de la guerre monétaire sino-américaine. Dans une demi-heure, vous en avez l'habitude, ce sera la libre antenne comme chaque vendredi, vous réagissez au sujet de votre choix, il est encore temps, par téléphone, 33 9 693 693 70, par message WhatsApp 33 6 89 28 53 64 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Mais tout de suite, vos questions donc, avec pour commencer un sujet récurrent comme les tueries de masse aux États-Unis, plus de 250 cette année, et comme à chaque fois la question du contrôle des armes se pose. Cette fois c'est à El Paso au Texas et à Dayton dans l'Ohio que des hommes ont ouvert le feu. Bilan, je vous le rappelle, 22 morts au Texas, 9 morts dans l'Ohio, et Donald Trump à nouveau sommé de s'expliquer. Bonjour Aldins.
Bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Aldins, vous êtes en ligne de Brazzaville et vous aviez des questions sur ce sujet.
Effectivement, le week-end dernier, les États-Unis ont enregistré deux fusillades et ont occasionné plusieurs victimes. Et l'un des tueurs, celui d'El Paso notamment, a été identifié comme étant un suprémaciste blanc. Par ailleurs, certains Américains accusent le président Trump d'attiser à travers ses discours le sentiment raciste au sein de la société américaine. Pourquoi l'accuse-t-il? Peut-on établir le lien entre les récentes tueries et les différents discours du président Trump?
Alors on va poser la question à Didier Combo, bonjour.
Oui, bonjour. Effectivement, l'auteur de la fusillade d'El Paso avait laissé un manifeste qui parle d'invasion en provenance du Mexique et de grand remplacement des blancs d'origine européenne par d'autres sous ethniques. C'est un sentiment qui non seulement n'est pas nouveau, mais qui a toujours existé aux États-Unis. Hein. Au XVIIIe siècle, par exemple, Benjamin Franklin se plaignait amèrement du nombre d'Allemands qui s'installaient en Pennsylvanie. Au XIXe siècle, c'était l'afflux d'Irlandais et de Chinois. Au début du XXe siècle, l'afflux d'immigrants d'Europe centrale et d'Europe du Sud qui ont en plus importé le bolchevisme, qu'on se soupçonnait d'importer le bolchevisme. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, il y a une peur d'un grand remplacement et d'une perte de pouvoir par les hommes blancs qui est exacerbée par la montée en puissance des minorités d'une part, et puis d'autre part par la mondialisation et la perte des emplois. Alors Donald Trump a su exploiter ses peurs pour se faire élire, hein, avec une grande habileté, et puis maintenant qu'il est au pouvoir, son rôle de président des États-Unis légitime ses peurs. Alors est-ce qu'en espèce de la filiale d'El Paso, on peut parler seulement de suprémacisme? C'est pas certain, parce qu'il ne faut pas confondre une peur de l'immigration avec le sentiment que la couleur de peau correspond à des races distinctes d'humains et qu'il y aurait une des races qui serait supérieure aux autres. Le suprémacisme évidemment existe aux États-Unis, et l'attitude du président actuel tend à la légitimer, mais c'est certainement quelque chose de marginal par rapport à la peur de l'immigration et à la perte d'identité.
Didier Combo, Aldins avait une autre question pour vous. Allez-y, Aldins.
Oui, à chaque fois qu'il y a tuerie aux États-Unis, le débat sur le port d'armes refait surface. Pourquoi le Congrès américain ne parvient-il pas à limiter l'accès aux armes à feu?
Didier Combo, la question du contrôle des armes, ça fait des décennies hein, maintenant qu'elle est présente dans ce débat public américain. Elle ressurgit à chaque drame. Qu'est-ce qui bloque toujours? Est-ce que le lobby des armes est toujours aussi fort?
Oui, alors c'est pas seulement le lobby des armes, parce que effectivement les fabricants d'armes ont intérêt à vendre leurs produits. Mais il y a aussi un sentiment chez les Américains que le fait d'avoir une arme, ça fait partie de la démocratie. Hein. Les États-Unis se sont bâtis sur le pouvoir du peuple, et le pouvoir de chaque citoyen, c'est d'avoir une arme. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à combattre, et la NRA, la National Rifle Association, est très efficace pour faire progresser ce sentiment-là. Alors, depuis à peu près un siècle, on débat de cette question des armes à feu. Et ce que les Américains essaient de faire, c'est de préserver l'accès aux armes pour les individus sains d'esprit et honnêtes, entre guillemets, et d'empêcher les gens qui ont des problèmes mentaux ou les délinquants d'y avoir accès. On essaie de faire ça avec un système de contrôle des antécédents psychiatriques et judiciaires, mais ça fonctionne très mal, d'abord parce que les fichiers sur lesquels on s'appuie sont très lacunaires, parce que les États-Unis sont un pays fédéral, et donc il est difficile de centraliser l'information, et donc ça fonctionne pas très bien.
Voilà. Merci Didier Combeau d'avoir été en ligne avec nous, et merci à vous Aldins pour vos questions. Vous restez fidèles à RFI, à Appel sur l'actualité. On continue de parler des États-Unis, mais sous un autre angle, celui de la querelle monétaire avec la Chine. Bonjour Fadel.
Bonjour François Mazet, bonjour à tous les invités de la RFI.
Fadel, vous êtes à Niamey au Niger et vous avez des questions sur le yuan qui a dégringolé, baisse de valeur orchestrée par Pékin et qui agace les États-Unis. Allez-y.
C'est exact François, merci beaucoup. Les États-Unis se sont plaints de la dévaluation du yuan, ce qui entraînerait certainement des conséquences sur l'économie américaine. Pourquoi cette dévaluation et en quoi représente-t-elle un risque pour l'économie américaine?
On va demander ça à Abla Jounaidi du service économie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Abla, quand on baisse la valeur de sa monnaie, généralement c'est pour soutenir ses exportations. Est-ce que c'est l'idée politique de la Chine?
Oui, tout à fait, d'autant que cette idée n'est pas nouvelle, puisque pendant des années, les économistes s'accordent là-dessus, la Chine a joué de la dévaluation du yuan pour justement soutenir les exportations, pardon. Donc là encore, c'est effectivement l'accusation américaine consiste à dire que c'est fait pour justement soutenir les exportations chinoises. Et si on fait ça, ce sera forcément au détriment des autres pays exportateurs, à commencer par les États-Unis. Donc la conséquence, ce serait que les exportateurs américains seraient moins compétitifs sur le marché mondial que les exportateurs chinois.
Oui, parce que la croissance chinoise étant un peu en berne par rapport à ses objectifs, à ses prévisions, on a besoin de ses exportations pour la regonfler, c'est ça l'idée?
C'est ça, c'est toujours été un moteur, les exportations ont toujours été un moteur de l'économie chinoise, et donc la dévaluation du yuan favorise en effet les exportations chinoises.
Concurrence déloyale, donc, disent les Américains.
C'est ce que les Américains, effectivement, estiment par la baisse de cette valeur du yuan, oui.
Fadel, d'autres questions pour Abla?
C'est exact. Cette stratégie n'a-t-elle pas de conséquences négatives pour Pékin? Existe-t-il une instance internationale qui peut gérer cette guerre commerciale?
Alors Abla, est-ce que la Chine prend un risque également avec cette dévaluation?
Oui, elle prend même beaucoup de risques en fait. La Chine, d'ailleurs on peut même estimer que cette dévaluation coûte plus cher en réalité à court et à moyen terme à la Chine qu'aux États-Unis. Même si elle rend effectivement moins douloureuses les hausses des taxes douanières américaines pour les exportateurs chinois, il y a des risques d'abord de rendre des importations pour les Chinois plus cher. Les Chinois importaient énormément de matières premières, notamment beaucoup de pétrole brut, par exemple. Dévaluer sa monnaie, en général, ça veut dire que la facture coûte plus cher.
La facture énergétique augmente parce qu'on paye en dollars le pétrole, par exemple.
Voilà, donc le yuan dollar, si le yuan est dévalué, forcément la facture va être plus importante. Il y a un risque effectivement aussi pour la dette, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises chinoises, par exemple, s'endettent en dollars. Donc si elle rembourse avec un yuan dévalué, ça va effectivement coûter plus cher. Et ça, c'est un gros problème. Donc ça peut effectivement coûter cher à l'économie chinoise. Donc en fin de compte, on se dit que cette action, si elle a été effectivement orchestrée par les autorités chinoises, pourrait coûter cher aux autorités, enfin à l'économie chinoise.
C'est dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin est obligé de réagir d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais on ne sait pas si ça ne va pas leur exploser au visage.
C'est ça, c'est-à-dire que ça peut entraîner une spirale. Donc on baisse la valeur du yuan pour compenser l'augmentation des taxes douanières américaines. La réaction américaine pourrait être d'augmenter encore les taxes douanières à l'importation pour encore faire mal à la Chine, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et c'est ça le danger. Et d'ailleurs d'autres pays qui font concurrence à la Chine pour les exportations aussi, les pays de la région, en Asie notamment, se sont lancés dans une dévaluation de leur propre monnaie. Mais le risque, c'est effectivement que tout leur coûte plus cher, donc à l'importation, que ça coûte cher, que l'inflation en fait augmente dans ces pays-là et que la population en pâtisse et les économies de ces pays en pâtissent.
Donc on a un peu une grenade dégoupillée.
Voilà, on sait quand ça commence, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Et une course à l'échalote. Alors est-ce que quelqu'un peut arbitrer cette guerre commerciale ?
Oui, alors on a parlé du FMI effectivement ces derniers jours, c'est-à-dire que quand les États-Unis désignent la Chine comme manipulatrice de monnaie, le processus c'est d'aller voir le FMI, de dire bon, faites quelque chose. Sauf que le FMI, le mois dernier, a publié un rapport pour dire que la Chine avait sa monnaie là où elle devait être. En fin de compte, qu'il n'y avait pas de manipulation. En tout cas, il n'y a pas moyen de prouver avec des critères objectifs qu'elle manipule sa monnaie. Donc, en fait, la position du FMI, on la connaît déjà et elle est claire. Elle n'est pas dans le sens de ce que dit l'administration américaine, quoi.
D'accord. Merci à Blajounaïdi et merci à Fadel d'avoir posé ces questions. On suivra, bien sûr, sur les antennes de RFI les conséquences de cette querelle monétaire sino-américaine. On nous appelle du centre du Burkina ce matin. Bonjour, Herman.
Bonjour, François Mazé.
Vous êtes à Koudougou.
Oui. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Bien sûr. Et vos questions, Herman, portent sur les accusations visant le fils du président congolais Denis Sassou Nguesso.
Oui. L'ONG Global Witness a révélé dans une enquête que le fils de Denis Sassou Nguesso a détourné près de 50 millions de dollars des fonds publics. Quels sont les éléments sur lesquels l'ONG s'appuie pour accuser Denis Christel Sassou et détournement des fonds publics?
Alors on va le demander directement à Mariana Abreu, bonjour.
Bonjour François.
Vous faites partie de l'équipe d'investigation qui a révélé ces malversations au profit de Denis Christel Sassou Nguesso. Alors concrètement, quelles sont vos preuves?
Oui exactement, on a travaillé sur cette enquête pendant une année, et pour réaliser ces enquêtes, j'ai suivi l'argent en parcourant des nombreux relevés bancaires, documents d'entreprise et contrats confidentiels, et en changeant avec des sources de nombreux pays différents. Et ces documents retracent l'extorsion des plus d'un demi-milliard de dollars du trésor congolais et les transits des sommes de plus de 50 millions de dollars par des sociétés dans l'État américain de Delaware et les îles Vierges britanniques avant d'atteindre Chypre. Et les entreprises chypriotes était secrètement détenu par les fils du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso. Et ces entreprises ont reçu de l'argent qui a ensuite été utilisé pour effectuer des paiements à des entreprises installées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse.
Mariana Abreu, est-ce que c'est un peu le même système qu'en avril dernier, vous aviez mis à jour pour affirmer que Claudia Sassou Nguesso, la sœur de Denis Christel, avait détourné 20 millions de dollars d'argent public, notamment pour s'offrir un appartement dans la Trump Tower à New York?
Oui, exactement. Les systèmes sont très similaires. Ils ont utilisé les mêmes hommes de main, les mêmes types de sociétés fictives au Chypre. Et en sous-contrat faux avec l'entreprise brésilienne Asperbras. Donc le système est très similaire.
Herman, on retourne à Koudougou avec vous. Vous aviez une autre question pour Mariana Abreu.
Oui, de nombreuses personnalités sont citées sur cette enquête. Qui sont-elles et quelles relations ils entretiennent avec le fils de Denis Sassou Nguesso?
Mariana Abreu, est-ce qu'il y a une forme de constellation autour de la famille Sassou Nguesso pour l'aider dans cette évasion fiscale et cette évasion d'argent public?
La principale personne au cœur du système est José Veiga. Il est un homme d'affaires portugais controversé qui est déjà au centre d'une enquête portugaise sur la corruption et les blanchiments d'argent au Congo. Et comme dans le cas de Claudia Sassou Nguesso, dans ce cas-là, de Denis Christel, il a joué un rôle clé au sein de l'affaire, comme un homme d'aimant, comme la personne qui semble être la propriétaire des entreprises, quand en réalité, il n'est qu'un homme d'aimant.
L'État congolais, de son côté, Mariana Abreu, dénonce des fake news, une cabale médiatique. Comment vous réagissez à cela?
Ils ne nous ont pas dit ça directement. On a envoyé des questions à Denis Christel Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais. Ils n'ont pas parlé avec nous directement, mais bon, si c'est leur vision de l'enquête, mais j'aimerais obtenir des réponses un peu plus concrètes par rapport au fait qu'on a révélé et pas une réponse un peu évasif comme celle-là.
Via médias interposés. Merci Mariana Abreu d'avoir été avec nous de l'ONG Global Witness qui avait participé à la rédaction de cette enquête visant Denis Christel Sassoun Guesso. Et tout à l'heure dans la libre antenne, dans un quart d'heure, eh bien, certains auditeurs ont demandé à réagir à cette affaire et à ces révélations donc de détournement comptant pour environ 50 millions de dollars via des sociétés écrans à Chypre. Dernier auditeur à intervenir ce matin, c'est Trésor, bonjour.
Bonjour, monsieur François Mazet.
Trésor, vous êtes à Kisangani, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur l'épidémie de paludisme qui frappe vos voisins burundais.
Effectivement, monsieur Mazet, suite au décès de 1800 personnes dues au paludisme au Burundi, le gouvernement burundais refuse de les déclarer comme épidémie. Pourquoi le gouvernement burundais craint-il de reconnaître cette épidémie?
On va le demander à Esdras Ikoumana. Bonjour Esdras.
Bonjour.
Esdras, est-ce qu'on va vous entendre un petit peu mieux là maintenant? Esdras, pourquoi le gouvernement burundais refuse de reconnaître cette épidémie?
Pourquoi est-ce qu'il refuse de le reconnaître? Officiellement, en fait, le gouvernement n'a pas... officiellement, on parle surtout du fait qu'il y a des élections dans une année, élections présidentielles notamment très cruciales. Eh bien, le gouvernement ne veut pas donner une mauvaise image de lui et donc il refuse de le reconnaître. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est finalement exprimé depuis hier et exactement pour... réfuter, pour dire qu'il n'y a pas d'épidémie au Burundi. Il explique que les conditions en fait qui règnent ne sont pas, donc ne permettent pas de le déclarer. Pourquoi? Son raisonnement est très simple. Pour cela, il se base sur des statistiques des mois de janvier à juin 2019. C'est une période où les taux sont encore bas et il compare ça à 2017, de janvier à juin, où c'était la pire année pour le paludisme au Burundi, où a été déclaré donc comme une épidémie. Et donc là, les chiffres sont très bas et on voit bien que ça a baissé sur cette période qu'il a bien pris.
Ouais, le problème, c'est que du côté d'OCHA, des Nations Unies, on n'a pas la même chiffre et quand on fait la comparaison, on n'arrive pas au même résultat.
Exactement. Et je vais d'abord préciser le fait que les chiffres d'OCHA viennent d'un rapport de l'OMS qui est tiré lui-même d'un rapport du ministère de la Santé publique. Et donc, le ministre connaît bien, je pense, ces chiffres. Et donc, ces chiffres qui sont utilisés par OCHA, qu'on retrouve sur le site d'OCHA, eh bien, eux comparent de janvier à juillet 2019 et ils sont comparés à l'année passée, c'est-à-dire à 2018. Et sur ces cas-là, on voit par exemple que, il y a une augmentation. À un certain moment, ça double pratiquement le chiffre de malades sur cette période. Et on dit que 33 districts sanitaires sur 46, 33 districts sanitaires, ont dépassé le seuil d'épidémie. Donc c'est clairement un état très alarmant.
Alors, est-ce que le gouvernement va prendre des mesures pour lutter contre cette crise du paludisme?
Ah ben, le ministre, en même temps, a assuré qu'ils sont très, très conscients de ça. Il parle même lui-même de flambée de paludisme. Et il a expliqué qu'il y a bien des solutions qui sont en train d'être prises. Il a notamment dit que ils ont engagé 360 auxiliaires de santé qui sont sur le terrain, ce qui a permis de diminuer le nombre de décès par rapport aux années antérieures. Autre chose, il promet des autres mesures, notamment la distribution de moustiquaires imprégnés et la pulvérisation d'insecticides dans les maisons.
En quelques mots, est-ce que dans ce contexte, l'OMS et les ONG peuvent faire quelque chose de plus?
Ces ONG et l'OMS sont présents sur le terrain énormément. C'est eux qui financent, c'est eux qui exécutent les projets qui sont financés par la Banque mondiale, l'Union européenne. Malheureusement, ils n'ont pas droit à la parole et n'osent pas s'exprimer de peur de faire taper dessus justement à cause de la volonté de l'État de ne pas en parler.
Merci Esdras Ikoumana et merci à Trésor qui nous écoutait à Kisangani. Vous restez avec nous tout de suite le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange.